sommaire ce matin, les juges de la CPI entendront de nouveau aujourd'hui mercredi Germain Katanga et Mathieu Ngoujolo, poursuivis pour le meurtre de 200 civils lors de l'attaque de Bogoro en 2003. Les deux accusés, qui plaident non coupables, affirment que ceux qui ont planifié, ordonné et commandé cette attaque étaient aux ordres de Kinshasa. À Kinshasa, justement, le greffe de la Cour suprême de justice enregistre les déclarations du patrimoine des membres du gouvernement entrant, une obligation constitutionnelle à laquelle certains ministres sortants ne se sont pas soumis. Au Kasaï oriental, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée oppose en ce moment les pétroliers à la direction des impôts. Ces commerçants s'estiment exonérés pour 6 mois. Le service des impôts crie à la mauvaise interprétation des textes par les pétroliers. Bonjour à tous. Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngoujolo touche à sa fin. Les deux chefs de milice se sont poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Ituri lors de l'attaque du village de Bogoro le 24 février 2003. Selon l'accusation, l'attaque aurait fait près de 200 morts parmi les civils. Les avocats des deux détenus ont présenté leur plaidoirie finale le 21 mai et le 22 mai. Ce mercredi, les juges entendront encore les accusés avant d'entrer en délibéré. Le jugement ne sera pas rendu avant l'automne. De la haie, une correspondance de Stéphanie Mopa pour Hirondelle News.
Pour les deux accusés, l'attaque de Bogoro n'était pas un conflit ethnique tel que décrit par le procureur, mais le résultat d'une opération lancée par Kinshasa pour déloger de l'Ituri l'Union des Patriotes Congolais, une milice soutenue successivement par l'Ouganda puis le Rwanda. Les avocats des deux accusés estiment que l'attaque lancée par Kinshasa était légitime, mais que les deux hommes ne sont pas responsables de la mort de civils. Avocat de Germain Katanga, Maître David Hooper a contesté l'image présentée par le procureur. Germain Katanga n'était pas un chef de guerre, a-t-il affirmé. Il y avait des intérêts bien plus puissants que lui. Germain Katanga ne nie pas sa participation dans l'opération, mais affirme qu'elle n'était pas décisive. Ce qu'il en planifiait, ordonné, commandé, était aux ordres de Kinshasa, lui n'aurait servi en quelque sorte que de point de contact entre l'armée et les milices. De son côté, Mathieu Ngoujolo nie toute forme de participation. Infirmier de profession, il procédait à un accouchement le jour de l'attaque, affirment ses avocats. Pour Maître Kilenda, Bogoro était une attaque légitime de maintien d'intégrité du territoire, mais dans laquelle Mathieu Ngoujolo n'est impliqué ni de près ni de loin. À la haie, Stéphanie Mopa, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Nous voilà revenus au pays, en Ituri précisément. 8 militaires sont condamnés à des peines allant de 6 mois à 10 ans de prison, notamment pour viol, homicide et détournement des faits militaires. Tandis que 3 civils condamnés au premier degré à 20 ans de prison pour vol en main armée et détention illégale d'armes de guerre ont été tout simplement acquittés. Ces verdicts ont été rendus hier mardi après-midi par la cour militaire qui vient d'achever ses audiences en chambre foraine à Bounia, d'où nous appelle tout de suite Isaac Remoyopé.
La cour militaire a examiné 10 dossiers pendant son séjour d'environ 2 semaines à Bounia. Pour la plupart des dossiers dont les concernés ont interjeté appel, la cour a réformé l'œuvre du premier juge. C'est notamment le cas d'un militaire condamné au premier degré à 10 ans de prison pour viol d'une fille de 11 ans à Arou. Il a été condamné à 4 ans de prison par la cour. 3 civils condamnés au premier degré à 20 ans de prison pour vol à main armée ont été tout simplement acquittés, notamment faute de preuves. La cour a ordonné leur libération immédiate. Les juges de la cour militaire aurait conduit les peines des 3 militaires condamnés à 6 mois, 3 ans et 10 ans au premier degré pour viol, violation des consignes et perte d'armes. Un autre soldat des FARDC a écopé une peine de 4 ans de prison et un capitaine des FARDC a été condamné à 18 mois de prison pour détournement des faits des militaires. Pour la défense, le jugement de plusieurs dossiers n'a pas été équitable au premier degré et que beaucoup de détenus innocents croupissent à la prison. De Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
On enchaîne avec le Sud Kivu où certains soldats des plusieurs unités de la 10e région militaire, particulièrement en territoire de Fizi, boudent. Ces militaires n'ayant pas retrouvé leur nom sur les dernières listes de paye, menacent de quitter leur position. Derniers incidents en date, des militaires ont tiré en l'air à Lulimba, mais aussi à Kasaka, explique la société civile du territoire de Fizi. Une situation qui plonge encore la population dans l'insécurité, selon la source. Le point de la situation avec Fiston Goma Mayabala.
Ils sont plusieurs centaines de militaires FARDC à Lulimba, à Baraka et à Minembwe dans le Haut-Plateau qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes de paye et n'ont pas touché leur solde. Pour manifester leur mécontentement, un militaire du 112e régiment a tiré sur la résidence d'un commandant FARDC S1 à Lulimba, 125 km au sud de Baraka. Un autre militaire du 105e régiment a tiré plusieurs coups de balle plongeant la population dans la panique dans la localité de Kasaka au sud de Baraka. Certains militaires déclarent n'avoir pas été payés depuis le mois de mars. Le week-end dernier, des acteurs intervenant dans le sous-cluster protection ont affirmé que la tension était toujours vive dans les localités de Katanga, Malinde, Sebele, Asaba, Kasanjala au sud de la cité de Baraka. La majorité des militaires se trouvant sur cette ligne de front en face des éléments de Yakutumba menacent de dégarnir leur position. La société civile a fait tirer la sonnette d'alarme pour que cette question soit réglée dans l'urgence. Du côté de la 10e région militaire, on reconnaît que le problème de militaires omis sur des listes de paye est réel et qui se pose au niveau du système informatique à l'état-major des FARDC à Kinshasa. La même source indique que des démarches sont en cours pour régler cette question. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la Radio Kapi.
Portons maintenant le regard sur cette affaire de déclaration du patrimoine des ministres. En effet, le greffe de la Cour suprême de justice affirme enregistrer le dépôt des documents des membres du gouvernement entrant. Quant au gouvernement sortant, certains ministres ne se sont pas conformés à cette obligation. Selon l'article 99 de la Constitution de la RDC, à l'entrée et à l'expiration de leurs fonctions, les ministres déposent devant la Haute Cour la déclaration de leur patrimoine. Faute de quoi, et en déentrant jour, ils sont réputés démissionnaires. Mais la déclaration du patrimoine reste secrète et non publique. Le professeur Ngonda Nkoy, constitutionnaliste, explique la procédure. Il a été joint par Jeff Ngoy.
C'est une déclaration qui est écrite et qui est déposée sous peu fermée à la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice n'a pas d'ailleurs le pouvoir d'ouvrir l'enveloppe. Elle communique tout juste cela à l'administration fiscale. Maintenant, il faudrait distinguer les cas des membres du gouvernement sortant de ceux qui vont entrer. Les membres du gouvernement sortant déclarent leur patrimoine dans les 30 jours à dater de la fin de leur fonction. S'ils ne le font pas, il y a deux procédures. La première procédure est administrative. La direction générale des impôts pour ouvrir les enveloppes et regarder le niveau de biens, le niveau de revenus acquis par le ministre et pouvoir calculer son imposition. La deuxième procédure, elle est judiciaire. Si on ouvre les deux plis, on constate qu'il y a un enrichissement illicite, un enrichissement sans cause, l'article 99 prévoit de suivre selon les cas la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle. Et si le ministre s'est enrichi illicitement, il peut être poursuivi conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans la République.
Et pour la suite du journal, prenons maintenant la direction du Kasaï oriental où un bras de fer oppose les opérateurs économiques du secteur pétrolier à la direction provinciale des impôts. À la base, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Les pétroliers de cette province ont exprimé leur inquiétude au ministère provincial de l'économie et des finances. De son côté, la direction provinciale des impôts indique que le carburant n'est pas exonéré à la TVA. Radio Kapi Mbujimayi, Emmanuel et
Le différend oppose principalement les opérateurs économiques exploitant le secteur des carburants au Kasaï oriental et c'est autour de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Ils disent ne pas comprendre comment la direction des impôts commence à exiger le paiement de la TVA sur le produit pétrolier pendant qu'ils bénéficient d'une exonération de 6 mois à dater de février 2012. Edouard Moulumba, importateur de carburant au Kasaï oriental, pense que c'est illégal car selon lui, ce n'est pas le cas dans d'autres provinces du pays. En réaction, le directeur provincial de la DPI Kasaï oriental indique qu'il s'est Il s'agit d'une mauvaise interprétation des textes. Selon lui, ce n'est pas le carburant comme l'essence ou le pétrole qui est concerné par cette disposition d'exonération jusqu'à 6 mois. Roger Kalwahali Valambaye cite le foli, c'est-à-dire le fuel oil, un produit que l'on utilise dans certaines machines. Le ministre provincial des Finances, qui a reçu les doléances des opérateurs économiques, dit attendre un rapport écrit de la part des pétroliers. Il pense que des séances pédagogiques doivent être multipliées pour favoriser la légalité. Emmanuel Elamejo Akabedi, Mbujimayi,
Enfin, sachez que la Société commerciale des transports et des ports renforce le transport de trains urbains à Kinshasa. Et pour preuve, la SCTP a augmenté le nombre de rotations de son train sur le tronçon qui va de l'aéroport d'Ndjili à la gare centrale. C'est pour pallier les difficultés de transport dans la capitale congolaise. Dans quelles conditions les gens voyagent-ils à bord de ce train et quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises sur le tronçon? Tentative de réponse dans ce reportage de Richard Junior Kamunga qui a assisté hier mardi aux différentes rotations.
5 rotations sont programmées chaque jour en raison des 3 les matins et 2 dans les après-midi. La société commerciale des transports et des ports aligne une locomotive avec 11 voitures pour une capacité de 3000 à 3500 passagers par rotation. Le coût du billet par course est de 500 francs congolais par passager. Pour bien réaliser ce travail, la société commerciale des transports et des ports demande certains préalables au gouvernement. Le directeur des chemins de fer interurbain, Martin Lukusachibang.
Nous avions une obligation de faire 3 rotations jour. Donc, et ça, c'était budgétisé et calé. Et nous sommes sûrs que le gouvernement va ne pas nous oublier. Sûrement que nous avons augmenté notre charge horaire et ça demande de grandes consommations de carburant.
Ce trajet de l'aéroport de Lille à la gare centrale, long de 19 km, est effectué en plus d'une heure au lieu de 15 minutes comme prévu. C'est suite aux constructions anarchiques le long de la voie ferrée. Martin Lukusachibang.
Que les dispositions soient prises dès aujourd'hui pour que le chemin de fer soit dans des conditions normales d'exploitation. Que le gouvernement puisse prendre des mesures d'urgence pour nous dégager la voie de l'aéroport, comme il y a des gens qui habitent à côté.
La société commerciale des transports et des ports et les services de sécurité de l'État disent tenir beaucoup à la sécurisation des voyageurs de ces trains.
C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.